Il est 18h sur RTVFM, l'heure de passer en mode sport avec votre émission Bienvenue au Club, animée par Alain et Laetitia.
Bienvenue au Club, mes amis, sur RTV, on s'épanouit. La musique bat dans nos veines, ensemble on partage la scène. RTVFM, c'est notre maison, avec vous on fait sensation. Bienvenue ici, c'est le fun, c'est parti pour l'évasion.
Eh bien, bonjour à tous et à toutes, effectivement, c'est Bienvenue au Club, une émission sportive sur RTVFM. Alors, on va parler du sport, du sport local, évidemment, avec tous les sports qui se passent sur Carpentras et autour de Carpentras. Vous nous recevez, bien évidemment, sur le 102.2FM, en DAB+, et puis, évidemment, sur toute, sur Internet, et puis, Alexa, etc. Vous faites appel à nous, et on va venir dans votre salon sans problème. Bonjour à Jean-Pierre, qui va réaliser notre émission jusqu'à 19h. Salut Jean-Pierre.
Bonjour à tous.
Bonjour Laetitia.
Bonjour Alain, bonjour à tous.
Alors Laetitia, aujourd'hui nous allons parler de...
L'haltérophilie.
Voilà, évidemment, nous ne sommes pas seuls dans les studios, puisque nous recevons Monsieur Gourier Benoît. Bonjour, monsieur.
Bonjour à tous.
Alors, vous êtes président et entraîneur du club d'haltérophilie de Monteux. Il a un nom particulier, ce club ?
Oui, donc il s'appelle le EEAR Monteux.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire, EEAR ?
Alors, EEAR, c'est issu d'un club de Carpentras à l'origine, donc en 1888. Et qui signifie étoile, espérance et aurore qui se sont réunis.
D'accord, d'accord. Donc on va vous retrouver maintenant sur Monteux.
Oui, tout à fait. Depuis 2008, on est à la Halle des Sports sur Monteux.
Alors avant de vous poser plein de questions sur votre club, sur ce qu'est votre sport, etc., je me tourne vers Laetitia Pédia qui nous a fait un topo sur ce qu'est l'haltérophilie.
Eh bien, en effet, qu'est-ce que c'est que l'haltérophilie ? C'est un exercice qui demande force, souplesse et dynamisme. Ce mot est dérivé du mot grec halter qui signifie balancier pour le saut, la danse. Ce sport se décompose en deux mouvements, l'arraché et l'épaulé jeté. C'est un sport universel et mondialement populaire, surtout en Europe de l'Est et en Chine. L'haltérophilie a des origines très anciennes, comme l'attestent les premières traces de sa pratique en Égypte et en Grèce antique. Mais c'est principalement au XIXe siècle qu'elle s'est développée comme un sport international. L'haltérophilie est une très bonne école posturale de laquelle on tire un véritable bénéfice dans la vie quotidienne. On apprend à bien se placer son dos et son corps en général. L'haltérophilie rend les muscles plus forts, il augmente la densité osseuse, il diminue le risque de blessure, il permet de mieux dormir, il améliore la santé mentale, il stimule le métabolisme et donne de l'énergie. L'haltérophilie, en France, commence à se faire... parler d'elle en 1840 avec Hippolyte Triat. On peut commencer la pratique de ce sport vers 10 ans. Il y a véritablement trois rendez-vous incontournables pour l'haltérophilie. C'est les championnats continentaux, les championnats du monde et les JO. En France, aujourd'hui, on compte 350 clubs et 26 000 licenciés. Notre championne de France s'appelle Lucas Delamotte et on le soutient. Cependant, la pratique ne s'ouvre aux fans que dans les années 80 et aujourd'hui, elles sont presque 1000 en France. Voilà.
Merci Laetitia. Monsieur Gourier, je vous ai vu opiner du chef pendant cet exposé. Vous êtes d'accord avec un peu tout ça ?
On est d'accord avec un petit peu tout ça et notamment sur l'éducation posturale. C'est vrai qu'on a souffert pendant plusieurs années d'une mauvaise image au niveau de l'haltérophilie. Et il faut savoir qu'à l'heure actuelle, on considère l'haltérophilie comme un bon outil d'éducation posturale.
C'est quoi une éducation posturale ?
C'est-à-dire apprendre à bien se placer pour soulever une charge. Alors, nous en compétition, bien entendu, mais dans la vie de tous les jours, pour soulever un seau, pour soulever une charge lourde.
Ok, on va revenir sur les techniques dans quelques minutes. J'aimerais bien qu'on commence immédiatement par la suite de la présentation de votre club. Donc, un club qui était carpentracien, qui date de 1888, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Donc, on est une des associations sportives les plus anciennes de France, donc créée en 1888. Donc, historiquement, on était sur Carpentras jusqu'en 2008. Et on a eu l'opportunité d'aller sur la commune de Monteux. Ce qu'on a fait.
Chez les voisins.
Chez les voisins montillens, exactement. Voilà, donc écoutez, on est bien intégré au tissu local. Et puis on avait déjà de très bons résultats sur Carpentras. Et on arrive à maintenir le niveau maintenant sur Monteux.
Alors quand vous parlez de bons résultats, c'est en nombre d'adhérents, c'est sur la vie du club,
Alors c'est
comment ça se passe ?
C'est de manière générale. Donc de bons résultats, alors on a déjà deux équipes Fanion, deux équipes phares, une en féminine, qui est montée cette année en top 9.
Donc ouais, l'équivalent on verra tout à l'heure voilà. toutes les catégories, divisions. Oui, toutes les divisions.
On est pareil chez les garçons, top 9, et on est surtout un gros club de formation. Voilà, on prend les enfants d'une dizaine d'années, comme l'a dit Laetitia, on les forme et puis la plupart d'entre eux intègrent nos équipes premières. Et aussi, on a un championnat individuel où chacun, de par son poids, de par sa catégorie d'âge et de sexe, hop, peut combiner et puis faire des compétitions.
Alors, à la louche, vous avez combien d'adhérents et adhérentes ?
Alors, l'année dernière, nous étions à 125 licenciés.
Oui. Alors, ça se répartit comment ? Hommes, femmes
On est sur 30% à peu près de féminines,
ouais.
Ce qui est quand même très important.
Oui, c'est vrai, oui, c'est important. Oui.
Et on a eu 25 moins de 18 ans.
Ah oui, d'accord, ce qui est de très bon augure pour la vie du club, me semble-t-il, et pour aller conquérir des titres, j'imagine.
Oui, tout à fait. De toute façon, nous, on en fait alors à deux aspects. On peut avoir un athlète jeune qui est là pour s'amuser, et puis au bout d'un moment, il choisit s'il veut performer en compétition, donc là, on l'accompagne. Mais effectivement, on a un réservoir de jeunes qui est très important, donc on voit l'avenir de bon augure.
Donc, on pourrait faire donc de l'haltérophilie uniquement de façon, par loisir, on n'est pas obligé de faire de la compétition.
On n'est pas obligé, mais c'est vrai que historiquement, le club, on est très axé sur la compétition. Eh oui. Donc on a quand même une orientation compétition. Et on s'en sert également en préparation physique pour les autres disciplines. Beaucoup de disciplines, des sports co, du BMX, etc., se servent de l'haltérophilie pour développer les capacités d'explosivité.
Ah, donc vous avez des adhérents qui concourent également dans d'autres clubs, sur d'autres disciplines et qui viennent se former, enfin pas se former, se préparer leur corps à résister à d'autres sports. Quoi.
Tout à fait. On a une notion vraiment d'explosivité et d'appui qui est très importante en haltérophilie. En sport co pour les déplacements, les appuis, les duels. Ouais. Par exemple, un sport comme le BMX, on a beaucoup de notions transversales sur les démarrages, où il faut être très explosif, très rapide, en très peu de temps.
Ah, c'est étonnant ce que vous me dites, je suis très surpris, parce qu'on a l'impression que l'haltérophilie, c'est un sport qui reste sur place, en fait. Mais en fait, pas du tout.
Alors, en fait, on est sur place, mais en fait, c'est un saut avec charge.
Ouais, d'accord.
Et en fait, un haltérophile, des études avaient été menées il y a quelques années, où les meilleurs haltérophiles mondiaux rivalisaient les meilleurs sprinteurs mondiaux sur les 10 premiers mètres.
Ah oui.
Oui, oui.
Donc, ah oui, d'accord.
En fait, on a une fausse image de l'haltérophilie. Il faut être coordonné, souple et très explosif. Voilà, il ne faut pas être que fort pour être bon haltérophile.
Ok, vous entraînez où à Monteux ?
Alors, à la Halle des Sports.
Donc, à la Halle des Sports alors que,
et qui est
alors...
à côté du collège Silve, pour ceux qui connaissent un petit peu, en face du boulodrome.
Ok, si on veut venir faire un petit peu d'haltérophilie, on vous contacte comment ?
Alors vous venez directement à la salle d'haltérophilie.
Ouais. On vient quand ?
Alors vous venez tous les jours de la semaine de 17h à 20h et le dimanche matin de 10h à 12h.
Ah oui d'accord, donc vous y êtes quasi 7 jours sur 7. Quoi.
Et vous venez surtout toute l'année, on n'a pas de vacances.
Ah oui.
Donc voilà, donc dès que vous avez un petit moment pour découvrir, vous venez. Vous pouvez assister à une séance, vous verrez nos plus jeunes, nos plus confirmés, et on vous expliquera la discipline.
Vous êtes président, donc, Monsieur Gourrier, du club depuis 2016, mais vous êtes également entraîneur hein, des équipes de votre club.
Oui, oui, tout à fait. On est une discipline où, en fait, les éducateurs se partagent le jeune public, le public compétiteur. Donc, et c'est vrai qu'en étant président, j'ai un petit peu double casquette, mais il y a pas mal d'éducateurs au club qui sont bien formés et qui sauront vous accueillir.
On reparle de la structure du club, des éducateurs et de l'entraînement. Ben, dans un petit moment, on se fait une petite pause musicale, 3 minutes, 3 minutes 30, et puis youpi, on se retrouve dans Bienvenue au club.
RTVFM à Carpentras en DAB+.
La pause est terminée, retour sur le terrain avec Bienvenue au club.
Absolument, et là nous vous emmenons non pas sur un terrain mais dans un gymnase puisque nous sommes en compagnie de monsieur Gourier Benoît, président du club d'haltérophilie de Monteux, président et entraîneur, nous avions dit.
C'est ça.
Bah écoutez, on va continuer évidemment cette interview en parlant plus spécifiquement, comme je l'avais promis tout à l'heure, des entraînements. Comment ça se passe un entraînement pour un haltérophile en fait ?
Alors nous l'avantage qu'on a, c'est qu'on n'a pas vraiment de créneau dédié à une catégorie d'âge. Le seul créneau dédié aux plus jeunes, donc des U10 aux U15, c'est le mercredi de 15h à 17h. Tout le reste du temps, donc tous les jours de 17h à 20h et le dimanche de 10h à 12h, vous serez accueillis par des éducateurs diplômés, brevets fédéraux, brevets d'État, qui vous accompagne. Et dans la même séance, on peut se retrouver avec du jeune débutant, avec du confirmé. Alors, dans la salle, c'est bien organisé, mais on n'a pas de créneau dédié. C'est-à-dire que pour les plus jeunes, notamment qui ont déjà une activité sportive, le mercredi après-midi, ils peuvent s'entraîner éventuellement le mardi soir, le vendredi soir.
D'accord. En fait, c'est une image, je ne sais pas si elle est satisfaisante, mais c'est comme si j'étais inscrit sur une salle de sport, et sur les créneaux, je viens, j'ai le matériel à ma disposition, et je m'entraîne en fonction d'un... j'imagine que chacun a son parcours d'entraînement en fonction des éducateurs.
Oui, tout à fait. Oui, après, chacun aura sa programmation. Voilà, chacun a sa programmation en fonction de l'âge, de son niveau de pratique. Et dans tous les cas, on a toujours un encadrement diplômé qui est là. Personne ne s'entraîne tout seul. Voilà.
Alors, combien vous êtes d'éducateurs dans votre club ?
On est 6 éducateurs.
Ah oui, oui, vous êtes nombreux.
Oui, oui, tout à fait.
D'accord. Donc, alors, les 6 ne sont pas toujours présents. Ils ne sont pas là par rapport à l'âge, hein, vous disiez. Donc, il y aura toujours un ou deux éducateurs sur place.
C'est ça. En général, il y a toujours 2 éducateurs par soir. Mm-hmm. Voilà, un qui s'occupe des plus jeunes, un des plus âgés. Et voilà, et on marche comme ça. Mais on n'a pas. Voilà, chacun vient quand il le souhaite. Alors, c'est un dialogue, bien sûr, pour pas qu'on se retrouve trop sur une journée ou une autre. Voilà, donc, mais c'est un partage et c'est un petit peu une richesse parce que le tout débutant peut s'entraîner avec le champion, oui. Le champion de France. Et le champion de France, en général, on est sur une discipline assez familiale. Le champion de France ne manquera pas de donner quelques conseils aux plus
jeunes. Et oui, ça peut être un joli partage entre les générations, entre les différents niveaux, les expériences, etc. Oui, ça peut être très, très, très intéressant, ça. Dites-moi, Laetitia nous en a parlé tout à l'heure. On commence donc l'haltérophilie à 10 ans.
Oui.
Et alors, jusqu'à quel âge on peut faire de l'haltérophilie ?
De 7 à 77 ans.
Ah oui ? Ah oui, oui. Oui,
non, alors c'est vrai que... Bon, le dernier exemple en date, alors je pense que localement beaucoup le connaissent, c'est Jean-Pierre Brunet, voilà, qui était président du club pendant une quarantaine d'années, a été champion du monde Masters, il avait 70 ans.
Voilà. Ah oui, d'accord.
Voilà, donc on en fait tard en haltérophilie. L'avantage, c'est qu'on est une discipline très technique, on soulève les barres de manière très symétrique, donc à l'inverse de ce qu'on peut penser, on a très peu de blessures et on peut en faire très tard.
Alors, vos éducateurs, pendant les périodes d'entraînement, c'est quoi leur boulot ?
Alors, c'est de surveiller notamment, pour les plus jeunes, à la bonne posture du dos.
Alors, c'est quoi une bonne posture du dos ?
C'est avoir le dos plat et les jambes pliées quand on soulève une charge.
Donc, le dos plat, c'est-à-dire que j'étire mon cou en hauteur pour...
Pour faire simple, oui. Ouais. Et il faut s'imaginer, quand on est enfant, quand on commence à marcher, si on fait tomber un stylo par terre, le premier réflexe d'un enfant... c'est de s'accroupir le dos plat pour ramasser le stylo. Ouais. Et nous, avec l'âge, on l'oublie.
Mais c'est vrai.
Et on se descend, les jambes tendues et le dos penché. Grosse erreur. Et donc, en fait, on apprend à revenir sur des bonnes bases.
Ok. Donc, alors, vous apprenez donc la posture. Donc, il y a la posture du dos. Il doit y avoir la posture aussi des genoux, des chevilles.
Alors, c'est pas vraiment une posture, c'est une position. Oui, il y a des angles un petit peu respectés. Mais, en fait, une des grosses difficultés de l'haltérophilie, c'est l'apprentissage de la discipline. On est très technique. Comme on est très explosif et qu'il faut mettre beaucoup de vitesse, on a des postures à respecter. Et en fait, une des problématiques du très jeune âge, c'est pas de soulever des charges, en fait, puisque les charges, on les fait de manière modérée, on a du matériel adapté. C'est plus l'attention, ou même si on peut mettre des aspects, des exercices ludiques, il y a une petite notion d'attention pour bien respecter les postures. Mais en parallèle, on a des exercices avec des sauts, notamment que les enfants aiment bien, de coordination.
Comment on travaille l'explosivité ? Vous faites aussi un peu du 100 mètres ou des départs, de la course à pied, des choses comme ça ?
Alors, on peut, mais ce sont surtout les sprinteurs qui utilisent l'haltérophilie pour aller vite. Voilà. D'accord. On est plutôt support de préparation physique.
Donc, il y a aussi... À mon avis, pas mal de temps de musculation quand même, au niveau des bras, au niveau des cuisses, au niveau des mollets, ça doit quand même être un travail important.
Alors le travail important, nous, c'est jambes et dos.
Jambes et dos.
Alors effectivement, le reste, on fait des compléments.
Les bras sont pas utiles en haltérophilie ?
Ils sont utiles, mais pas autant que ce qu'on pourrait croire.
Ah ouais, incroyable. Ouais,
nous pour soulever lourd, il faut avoir des bonnes cuisses et un bon dos. Et effectivement, il faut tout ce qu'il y a autour. Mais l'essentiel étant les jambes.
D'accord.
Oui, c'est surprenant, mais c'est comme ça qu'on soulève une charge.
Alors, vous allez soulever des charges. Eh bien, on va en parler de ces charges, justement. Tiens. Ah non, un petit peu avant, tiens. Un petit peu avant, excusez-moi. Sinon, je vais l'oublier, la question. Au niveau de l'alimentation, on a parlé des entraînements, etc. On va parler un petit peu de l'alimentation. Qu'est-ce qu'on doit manger? On doit faire attention à quoi?
Il faut tout simplement manger de manière équilibrée. Voilà. Nous, on n'a pas une diététique particulière, si ce n'est qu'en période de compétition pour les plus âgés, où il faut faire attention. On est un sport à catégorie, donc il faut faire attention peut-être à ne pas trop monter.
Ah voilà, on reparlera des catégories voilà. Justement, oui. Mm-hmm.
Voilà, donc mais concrètement, alimentation équilibrée, variée, voilà, et puis il n'y a pas de...
Et de la protéine aussi?
Alors, à un certain âge, il y a certains compléments protéinés qui peuvent se prendre, hein, bien sûr, mais là on parle de public adulte qui veulent éventuellement prendre un petit peu plus de poids pour monter dans la catégorie. Voilà.
Non, mais je parlais juste de l'alimentation, de manger.
Ah
des,
oui,
des
pardon,
protéines.
Oui, oui. Plutôt protéinée, oui, tout voilà. À fait.
On va refaire une petite pause musicale. Et puis après, on parlera des catégories, justement. Voilà, vous aviez lancé ce sujet, ça m'intéresse. On se retrouve, sur RTVFM, vous êtes évidemment sur le 102.2. Et on se retrouve juste un. Après un peu de ziquette. Allez, c'est parti.
Découvrez les hits de demain avant les autres. Avant les autres.
Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. We live in a crazy world. Caught up in a rat race. Concrete jungle life. Sometimes a mad place. It's you and me. Seek and find, what do we do now? It's all about finding love, sometimes hard to come by. But when it comes to us, it's always a good time. Only reason we are here is to celebrate. In a place where anyone can be anything. Hold on to this moment, don't let it fade away. Baby, keep the music playing. A zoo, come on, keep it up. It's funny if you're down to play, and we're turning the floor into a zoo. A zoo, come on, keep it up. It's funny if you're down to play, and we're turning the floor into a zoo.
La pause est terminée. Retour sur le terrain avec Bienvenue au Club.
Absolument, c'est même un retour dans un gymnase, puisque nous sommes toujours en compagnie de monsieur Benoît Gourrier, président et entraîneur du club d'haltérophilie de Monteux. Donc à nouveau bonjour pour ceux qui viendraient nous rejoindre. D'ailleurs, bienvenue à tous les auditeurs auditrices qui nous rejoindraient. 18h25, vous êtes quasiment rentrés chez vous tous là. Vous êtes probablement dans vos voitures, en train de nous écouter sur le 102.2, ou en DAB+, si, ben, si vous allez plus loin que Carpentras et puis les alentours. Toujours en compagnie de Laetitia. Recoucou Laetitia.
Recoucou.
Voilà, et Jean-Pierre officie toujours à la technique. Donc vous voyez, vous êtes entre bonnes mains et on est ensemble jusqu'à 19h. Monsieur Gourier, donc entraîneur et président du club d'haltérophilie de Monteux, ben, il est temps que nous parlions du matériel. Le matériel pour un haltérophile, c'est pas que les barres et les poids. Alors on fait ça dans l'ordre, on part de la tête aux pieds, comment on fait ?
Allez, on part de la tête aux pieds. Allez. Donc on a des barres, on a des disques et on a des chaussures. Voilà, c'est le matériel un petit peu spécifique à l'haltérophilie. On peut avoir un complément éventuellement de ceinture, de bande de poignet, voilà. Mais voilà, barres, disques et chaussures. Et là, vous avez un haltérophile.
Alors, les chaussures, qu'ont-elles de particulier ? Pourquoi des chaussures spécifiques en haltérophilie ? Les baskets, ça ne suffit pas ?
Alors, les chaussures ont une particularité, c'est qu'elles ont un petit peu plus de talon et on a une semelle rigide. Voilà. Comme on a des positions de flexion, c'est-à-dire où on s'abaisse sous la barre, il faut qu'on ait une facilité d'avoir le dos plat avec des talons
supplémentaires. Voilà, donc on est toujours sur cette logique de dos plat.
Tout à fait. Nous, c'est la base de l'haltérophilie, avoir une bonne posture. Voilà. Et puis rigide, parce que quand on est sous une charge un petit peu lourde, si on a des chaussures un petit peu molles, on peut être embêté.
D'accord. Alors, justement, on va parler des charges. Donc, il y a des barres. Les barres, c'est toutes les mêmes ou il y a des composants différents ?
Non, on a des barres, surtout les charges diffèrent. Donc, on a des barres, les barres olympiques hommes pèsent 20 kilos. Les barres olympiques.
Uniquement la barre ?
Uniquement la barre.
D'accord.
Les barres olympiques femmes pèsent 15 kilos.
Ouais.
Et après, pour les plus jeunes, parce que commencer à 15 ou 20 kilos à apprendre,
ouais,
c'est pas évident à tout le monde, on a des barres qui pèsent 10, 5 et 2,5 kilos.
D'accord, donc les plus jeunes vont commencer avec ces petites barres plus légères.
Ils vont même commencer avec manches à balai.
Ah ouais,
manches
ah ouais,
à balai, où on rajoute des petits poids de 500 grammes, etc., pour passer après sur des barres de 2,5 kg. Et voilà, et on monte progressivement, sachant qu'encore une fois, à une dizaine d'années, l'important c'est de bien soulever la barre, c'est pas de soulever lourd. Voilà.
D'accord. Et quand on la soulève bien, j'imagine qu'on la soulève aussi plus lourd quand même, ça doit aider.
Oui.
Voilà. Donc, comment s'organise pour avoir une progression ? On commence à combien de kilos ?
Alors après ça dépend de la personne.
Ah.
Il n'y a pas vraiment... En fait, quelqu'un qui arrive, je fais très simple, hein, mais qui mesure 1m85 et qui pèse 85 kilos, aura tout de suite une faculté à soulever un petit peu plus lourd que le jeune de 10 ans qui mesure 1m45 et qui pèse 35 kilos.
Oui, voilà. Bien sûr.
Donc en fait, on adapte à la personne. On se fixe pas de charge minimum, maximum. On débute très bas et on voit ce qui se passe. Si c'est très facile, on monte assez rapidement. Si on voit qu'on ne domine pas tout à fait la charge, on reste très léger, uniquement avec la barre de 2,5.
Donc, est-ce que comme au judo, il y a des niveaux, par exemple ? Est-ce qu'on va avoir une ceinture jaune, une ceinture bleue ? Comment ça se passe dans votre sport ?
Alors nous, effectivement, on a des niveaux au niveau individuel. Ça part du niveau, on va dire, débutant, départemental, régional, interrégional, France Honneur, France et international. Voilà. On a un tableau où, suivant sa catégorie de poids et d'âge, on a des performances à réaliser pour avoir tel niveau.
D'accord. Okay,
c'est donc, très codifié.
L'athlète reçoit un certificat, un petit document quand il change de niveau. Comment ça se passe ? Ou alors simplement, il est inscrit pour telle épreuve, quoi.
En fait, on démarre. Alors, pour les débutants, ils commencent les compétitions de débutants où il n'y a pas besoin de niveau. Et au fur et à mesure du temps, sont officialisées des performances. Et suivant ces performances, ça leur donne accès à des compétitions de plus en plus élevées.
D'accord. Donc, ils acquièrent des points en fonction de leur performance ?
Non, c'est pas des points. C'est-à-dire que le total, c'est le meilleur arraché réalisé. On a deux mouvements en haltérophilie.
Oui, voilà, c'était ma question suivante. Voilà. Vous m'avez devancé, bravo.
Voilà, donc c'est l'arraché, où le but est de soulever la barre d'un seul temps du sol au-dessus de la tête, et l'épaulé jeté, où on doit amener d'abord aux épaules, ensuite pour jeter au-dessus de la tête. Et en fait, le total, c'est l'addition du meilleur arraché et du meilleur épaulé jeté. Et suivant son âge et son poids, ce total nous donne un niveau. Et
d'accord.
C'est ça qui nous permet de naviguer entre des compétitions départementales ou d'aller jusqu'aux Jeux Olympiques. Voilà.
D'accord, ok. Et vous pouvez nous essayer, alors c'est pas facile à la radio, hein, mais de nous décrire un petit peu ces deux mouvements. Il y a d'abord l'arraché, c'est ça ?
L'arraché, donc on a une prise de main qui est assez large sur la barre.
Donc on est pas accroupi là. Hein.
Alors on s'accroupit pour prendre la barre, le dos plat, les jambes bien pliées.
Ouais.
Et le but du jeu, c'est de soulever le long des tibias, le long des cuisses, toujours le plus près possible du corps, de réaliser un saut, de réceptionner la barre le plus bas possible et de remonter.
À quel moment il se fait le saut ?
Alors à peu près quand la barre arrive au genou.
Il y a un petit saut sur place, de façon à donner de l'élan.
Un gros saut sur place. Très, très, voilà. Nous, on parle d'explosivité, il faut que ça soit un saut très rapide, très dynamique.
D'accord. Et alors, l'autre mouvement, vous pouvez essayer de nous
l'écrire. Donc, l'épaule est jetée, on a une prise de main qui est beaucoup plus serrée, à peu près de la largeur d'épaule. Et toujours pareil, donc on passe la barre le plus près possible du corps, donc le long des tibias, le long des cuisses. On fait une étape intermédiaire aux épaules.
Ouais,
donc en général, on s'accroupit. Alors, ce qu'on appelle en squat, il y en a beaucoup qui connaissent.
Oui, le squat, oui.
On se relève, et une fois qu'on est debout, on redonne une petite impulsion pour amener la barre au-dessus de la tête.
Donc, à ce moment-là, il y a deux sauts dans ce cas-là ou non ?
C'est ça, exactement.
Voilà, donc il y a deux sauts. Il y a un premier saut pour monter la barre jusqu'à la hauteur des épaules, c'est ça ?
C'est ça.
Avec les bras tournés, enfin, qui se retrouvent devant les flancs.
Pas en supination, en pronation.
En pronation, c'est-à-dire les doigts vers l'extérieur.
Et les paumes de main vers le sol.
D'accord, ok. Ah oui, d'accord, on reste comme ça.
Oui, oui.
Ok, et ce n'est qu'après qu'on va tourner les mains alors ?
Alors, on ne la tourne jamais. On ne tourne jamais les mains, on les garde toujours de la même manière.
Ah d'accord, ok. Oui, d'accord, donc ça permet donc d'avoir un deuxième élan.
En fait, naturellement, si on a les mains à l'intérieur, on ne peut pas soulever la barre. En ayant la main, hop, on soulève directement la barre.
D'accord. Ok. Et dites-moi, alors ça c'est mon truc. À chaque fois, je vois un haltérophile, j'ai toujours peur parce que bon, je regarde à la télé, hein, je pratique pas. J'ai toujours peur que le gars se retrouve à l'envers avec la barre sur la tête, etc. Ça arrive.
Alors ça peut arriver. On en voit dans certains bêtisiers, mais c'est quand même très rare. C'est très rare parce que alors pourquoi ? Parce que de manière générale, les barres sont loupées devant. Et même si elles partent légèrement à l'arrière, en fait, on a une technique. C'est comme au judo, on apprend à tomber. Eh ben, en haltérophilie, on apprend à lâcher une barre.
Ah oui, d'accord.
Alors, pour nous, haltérophiles, ça nous paraît tout à fait naturel. Après, c'est sûr que quelqu'un qui vient voir une compétition, qui voit une barre derrière, se dit « Ouh là là !» Mais en fait, c'est 99% du temps, ça se passe très bien. Voilà. Après, il peut arriver une blessure comme dans n'importe quel sport. Hein. Voilà.
Il doit y avoir une exigence particulière quand même dans les entraînements, parce qu'il faut être... Faut qu'il n'y ait pas trop de monde autour quand même.
C'est ça.
Hein, on est bien d'accord avec ça.
C'est ça. Donc en fait, nous, on a un plateau à disposition où on s'assure notamment que sur notre aire de pratique, il n'y ait personne qui passe devant. De toute façon, nous, c'est une règle. Quand un haltérophile passe, par respect et surtout par sécurité, on ne passe pas devant. Et ensuite, notamment dans la gestion des disques qui sont rangés, il faut que les disques ne soient pas rangés sous la barre. Il faut bien qu'ils soient rangés sur le côté.
Mm-hmm.
De manière à ce que quand on pose la barre, on tape bien sur le sol plat. Et ça ne rebondit pas de tous les côtés.
D'accord. Et alors, quand vous faites les entraînements, là, vous pouvez vous retrouver jusqu'à combien d'athlètes à s'entraîner en même temps ?
Il faut
un peu de place quand même.
Ah, on est entre 20 et 25 qui s'entraînent en même temps.
Et il y a quoi au sol ? Il y a une sorte de tatami
Au niveau des pieds, on a une structure en bois, puisqu'il faut quand même quelque chose de rigide.
Ouais.
Et au niveau de la chute des barres, on a des dalles en caoutchouc.
D'accord, qui sont tout autour. Donc il y a un petit carré de bois qui fait quoi ? Un petit mètre carré ? Peut-être moins que ça ?
Non, en général, le carré de bois fait 1 mètre sur 3 mètres, ce qui nous permet un petit peu d'avancer, de reculer avec la barre, en toute sécurité. Et les dalles en caoutchouc, c'est un petit peu la même structure que sur les jeux d'enfants, pour vous donner une idée.
Oui, d'accord. Oui, pour éviter qu'ils se fassent mal en tombant.
Voilà, et puis c'est surtout que ça fait moins de bruit. Voilà.
Ah oui.
Si on est sur du voisinage, si on est sur une activité parallèle. Ça limite un petit peu au niveau sonore aussi.
Quand vous rajoutez des poids sur une barre, de chaque côté, on les enfile, c'est ça, c'est des disques. Hein,
c'est ça.
Et donc il y a des couleurs qui correspondent au poids. Exactement. Quand ça se passe.
Alors nous, la codification, le poids rouge fait 25 kilos, le poids bleu fait 20, le poids jaune fait 15, le poids vert fait 10. Et après, on a 5, 2, 5, 2, 1,5, 1, 500 grammes. Et ce qu'on appelle les manchons, c'est-à-dire qu'en bout, on met un serrage qui pèse lui-même 2,5 kg.
Ok, ils sont en quoi ?
C'est un alliage métallique.
Voilà. C'est un alliage, voilà, ouais. D'accord. Okay. Et on retrouve ça dans le monde entier, quoi.
Alors, oui, l'avantage qu'on a, nous, c'est que quand on dit des fois, bon, qu'en haltérophilie, la Chine domine, les pays de l'Est, il faut savoir que tous les pays dans le monde en font et qu'on a régulièrement des champions qui viennent de tous les pays.
Ok, bah écoutez, ce que je vous propose là, c'est de refaire une pause, hein, et puis après, on va parler des différentes catégories, parce que vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, j'aimerais qu'on insiste un petit peu là-dessus, puis après, on parlera des compétitions, etc. À tout de suite.
Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
La pause est terminée, retour sur le terrain avec Bienvenue au Club.
Non, retour dans le gymnase même, puisque nous sommes, nous parlons d'haltérophilie depuis 18h, et ce sera jusqu'à 19h, vous êtes sur RTVFM, vous écoutez sur le 102.2. Si vous allez un peu plus loin, ou que vous avez du matériel un peu plus moderne, écoutez, vous nous écoutez en DAB+, avec une très très grande qualité sonore, et si vous allez encore plus loin, n'hésitez pas à nous écouter sur notre site directement, et puis sur les différentes enceintes connectées, bien évidemment. Voilà, vous nous appelez, et on vient chez vous, voilà, j'espère que vous êtes rentrés tous et toutes du boulot tranquille. tranquille ou tranquillette. Voilà, et nous sommes toujours en compagnie de monsieur Benoît Gourrier jusqu'à 19h, donc encore bien 20 minutes pour parler d'haltérophilie. Ben écoutez, il est temps qu'on parle des différentes catégories. Comment ça se passe? Il y a des Ligues 1, des Ligues 2, du National, comme en foot. Comment ça fonctionne?
Alors, au niveau collectif, effectivement, on a ce qu'on appelle, nous, les divisions nationales. Donc, la plus haute en France, c'est le top 9, qui est l'équivalent de la Ligue 1 ou du top 14.
Mais qui on a dans ce top 9?
Alors, on a les 9 meilleures équipes françaises masculines dans une division et féminines dans l'autre division.
D'accord, donc il y a un top 9 féminin
et un top 9 masculin. Après, top 9, c'est National 1, National 2, Régional 1, etc.
Voilà. D'accord, donc Régional 1, Régional 2...
Après, en Régional, on tombe sur toutes les différentes... Oui, on peut dire Régional 2, mais c'est surtout une grosse division régionale.
Et on a un niveau département... Il y a des niveaux de département
par équipe, non. Ça démarre directement à la région.
D'accord. Comment on fait pour monter comment vous avez dit en top 9?
Au top 9, eh ben alors si on imagine qu'on est un club nouveau, il faut monter une équipe de 5 féminines ou 5 masculins. Ouais. Il faut participer au championnat régional, le remporter. On passe ensuite au niveau supérieur qui est la nationale 2. Il faut le remporter. Ouais. Et ainsi de suite jusqu'au top 9.
Et donc, alors, top 9, c'est le niveau maxi...
Oui, c'est l'élite, oui, tout
c'est,
à fait.
C'est l'élite. Ensuite, alors, on a le
National 1.
National 1. Il y a 9 équipes aussi?
Oui, tout à fait.
D'accord. National 2, 9 équipes
9
également?
9 équipes aussi.
D'accord. Donc, vous êtes... Pourquoi toujours 9? Pourquoi pas un nombre pair?
Alors, parce qu'en haltérophilie, on marche en triangulaire. C'est-à-dire qu'une rencontre, c'est pas une équipe contre une autre, c'est une équipe contre deux autres.
Ah.
Voilà, et donc multiple de 3, 9 écuries.
D'accord. Alors, donc c'est un championnat, il y a donc des matchs gagnés, des matchs nuls, des matchs perdus.
C'est ça, en fait, nous, on a un système où quand on gagne la rencontre, on marque 8 points, quand on est deuxième, 6 points, et dernier, 4 points.
On fait comment pour gagner une rencontre?
Alors, on a un système un petit peu de coefficients qui permet de comparer les performances entre quelqu'un qui... une petite catégorie et une grosse catégorie. C'est-à-dire que quelqu'un qui est dans une catégorie de poids supérieur, naturellement, soulève plus lourd. Et en fait, on a un coefficient qui adapte et qui compare ces performances. On appelle ça, nous, des points IWF. Voilà, c'est un petit peu le terme haltérophile. Et en fait, on fait l'addition, 5 athlètes, on fait l'addition du total des 5 athlètes.
Ok, ouais, c'est un peu compliqué quand même. Il faut être bien initié.
Il faut être un peu initié. Quand on suit une compétition, on a un tableau de suivi, c'est beaucoup plus facile à comprendre. Mm-hmm. Voilà, c'est plus difficile à expliquer, mais à suivre, c'est plus intuitif.
D'accord, donc on a donc ces différents niveaux sur les compétitions. Alors, il y a différentes catégories, c'est en fonction du poids. Comment
c'est,
ça se passe?
C'est ça. Ben, pour vous donner un exemple, on a une catégorie de poids qui va... on peut peser 67 kilos et être dans une catégorie, 61 kilos et être dans une autre... Après 79 kilos, etc., etc. En fait, on a la possibilité, un haltérophile a la possibilité de concourir contre des gens qui font approximativement son poids.
D'accord. Par contre, en fonction de la catégorie, comment je vais poser ma question? En fonction de la catégorie, il y a un poids minimum à savoir lever?
Ben, si vous voulez... Pour vous donner un exemple classique, si un athlète de 79 kilos doit faire 260 au total pour aller au championnat de France, dans la catégorie supérieure, il devra soulever par exemple 10, 15 ou 20 kilos de plus.
D'accord, donc c'est en fonction des catégories qu'il y a un poids
fait.
Minimal à savoir...
C'est ça.
D'accord. Et alors, donc pour changer de catégorie, vous disiez qu'ils avaient... c'était en fonction de leurs résultats, c'est ça hein, Mais j'ai toujours pas compris, c'est consigné où?
Alors si vous voulez, en fait, nous c'est répertorié, on appelle ça des listings. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous faites une compétition, vous intégrez un listing avec votre niveau. Et donc, quand on est, par exemple, national, on fait partie des athlètes qui se sont qualifiés au championnat de France. Quand on est départemental, on est sur un listing qui permet de concourir au championnat départemental, etc., etc.
Et donc, alors, pour faire une compétition, c'est le club qui nous inscrit, c'est pas des inscriptions individuelles.
C'est ça, en fait, la licence donne droit à la compétition.
Voilà, donc il y a forcément une licence on est adhérent, bien sûr.
Il faut s'adhérer donc, à un club.
Ouais.
De par ce club, après, on réalise des compétitions, tout à fait.
D'accord. Alors, des compétitions, vous en organisez Comment ça se passe pour votre club, en fait?
Alors, en fait, il y a deux types de compétitions. Il y a les compétitions de ligue, donc c'est au niveau régional, où on a de la compétition du débutant à l'organisation de compétitions régionales qualificatives. Et ensuite, on a le deuxième volet qui est plus avec la fédération, où on organise des compétitions de niveau national en individuel ou par équipe.
D'accord. Alors, le club de Monteux, vous vous situez à quel niveau vous êtes dans quelle division?
Alors nous, chez les garçons, on est en top 9, donc la plus haute.
Ah ouais?
Oui, oui. Et chez les féminines, c'est la même chose depuis cette année.
Donc, bravo.
Ah oui, donc au niveau national, vous faites partie des 9 meilleurs clubs.
Exactement, dans chaque catégorie.
Mais il fallait le hurler bien avant.
On attendait le dernier moment pour le dire.
Enfin, j'ai oublié quand même. Vous devez être très très fier de ça. Et puis alors, faut faire attention de ne pas descendre, quoi.
Alors, la problématique, c'est que quand on arrive dans ce niveau, c'est très difficile.
Ah ouais.
Et déjà, se maintenir, c'est un bon niveau. Et pour vous donner un exemple, malgré tout, d'un point de vue individuel, on a un garçon du club qui était à l'extrême limite de réaliser les Jeux Olympiques en 2024 à Paris. Donc, c'est pour vous donner un petit peu le niveau quand même du club.
Ah oui, oui.
On a un niveau... Alors, on est dans l'éducation posturale, mais on est aussi dans la compétition. Et notre entraîneur emblématique, Pierre Gourier, que certains connaissent a priori dans la région, a réalisé 3 fois les Jeux Olympiques. Mexico, Munich et Montréal.
Ah oui, balèze. Voilà. Et dites-moi, qui se retrouve avec vous dans le top 9 alors? Parce que donc il y a Monteux et puis...
Alors ça varie, mais en ce moment on a quelques clubs parisiens. Donc ouais. Saint-Maur-les-Fossés, Franconville, ouais. On a Strasbourg, on a Clermont-Lérault. Voilà, ça peut aller à Toulon, ça peut aller à Bordeaux, Saint-Médard-en-Jalles, la Bretagne. En fait, on est vraiment une pratique nationale, vraiment, et on peut aller dans tous les 4 coins de la France.
Mais une sacrée organisation quand même au niveau des déplacements, etc. Et même quand vous recevez des clubs, vous leur proposez des hébergements, comment ça se passe?
Alors nous, on leur identifie des logements à proximité, voilà, pour se loger, et après ils sont autonomes, voilà. Ils ont une heure de pesée. On a tous des heures de pesée respectées dans l'enceinte dans laquelle on va. Et après, chacun se débrouille, où il dort où il veut, il mange où il veut. Et il faut qu'il soit présent à la pesée. D'une certaine heure, on a une heure pour se peser en compétition. Passé ce délai, on ne peut plus concourir.
Ah, donc l'heure qui précède la compétition?
Alors en fait, on se pèse 2 heures avant la compétition. Ouais. Et cette pesée dure 1 heure.
1 heure de pesée?
Oui. Alors, historiquement, pour les compétitions par équipe, ça a moins d'importance. Il faut que l'équipe soit complète. Mais en individuel, l'enjeu, c'est des fois, certains athlètes ne sont pas tout à fait au poids de la catégorie. Donc, ils ont 1 heure pour perdre les derniers centaines de grammes, éventuellement.
Et que comment on fait pour perdre 300 ou 400 grammes alors, en 1 heure?
Il faut transpirer beaucoup. C'est pour ça qu'il vaut mieux l'anticiper. Mais voilà.
Ah ouais, incroyable.
Voilà.
Okay, oui, c'est un peu comme dans la boxe, en fait.
Mais c'est exactement la même chose. Tout
d'accord.
À fait.
Ok. Et alors, c'est un sport qui est structuré comment? Il y a une fédération française nationale, bien évidemment. Et après, ça se décline en région?
C'est ça. Donc, on a la fédération donc internationale, nationale.
Ah oui.
Et après, on a des ligues, donc régionales, et des départements, et des clubs.
D'accord. Donc, donc vous avez vraiment, dans tous les niveaux, une organisation. Qui sont ces personnes qui organisent? Ce sont forcément des haltérophiles qui l'ont été. Enfin, ils l'ont
oui,
été.
Oui, en général, ce sont d'anciens haltérophiles qui passent du côté dirigeant. Après, il peut arriver d'avoir des gens tout neufs qui arrivent, mais c'est vrai qu'en général, le pratiquant devient dirigeant.
Eh oui. Et oui, effectivement. On se refait notre toute dernière pause musicale et après on va parler des arbitres quand même. Et puis après on parlera de vos événements. Allez, à tout de suite sur RTVFM, bien évidemment.
Vous écoutez RTVFM à Orange et à Châteauneuf-du-Pape en DAB+.
RTVFM, une radio, une identité, un territoire.
Monsieur et Madame vont avoir 30 ans. Ils voyagent, se sentent libres et nomades. Ils se moquent des gens qui ont déjà des enfants et qui parlent beaucoup trop souvent d'argent. L'immobilier, les impôts, la télévision ne font pas partie de leurs occupations. Eux, leur rêve n'est pas de devenir un mouton, car ils pensent que tous les autres le sont.
Quelques leçons évidentes.
s'installent, pensent à construire une villa. Ils ont démarré par l'achat du 4x4 pour que le monde comprenne qui est maintenant le papa. La plus grosse maison, le plus beau van trip à présent. Le choix est évident, mais qui vont-ils bien pouvoir juger? Maintenant tout le monde sauf eux-mêmes bien évidemment. Oh, 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 oh. Mais qui vont-ils bien pouvoir juger? Maintenant tout le monde sauf eux-mêmes bien évidemment. Monsieur et madame
La pause est terminée, retour sur le terrain avec Bienvenue au Club.
Absolument, bienvenue sur le terrain, et là c'est forcément un gymnase puisque ben, nous parlons depuis 18h de l'haltérophilie du club de Monteux avec monsieur Gourier Benoît et on ne s'en lasse pas, et voilà, il nous reste 6 minutes, donc attention, les dernières questions ça va partir en salve, ça va être un truc de dingue. Alors on va parler, la date des saisons, elle se déroule de quand à quand vos saisons
Alors nous c'est deux saisons sportives classiques, 1er septembre, 31 août. Avec une période de compétition qui démarre du mois d'octobre et qui finit au mois de juin.
D'accord. Mais là, par contre, les championnats sont terminés.
Alors là, les championnats par équipe sont terminés.
Ah voilà, par équipe, ok.
Et on va attaquer toutes les compétitions individuelles maintenant.
Alors là, ça se passe comment, là ? Il n'y a plus de top 9, là, plus...
Non, là, c'est chacun pour soi. Et donc, avec les performances qu'on a réalisées, on s'est sélectionné à certains niveaux de compétition. Et donc les dernières compétitions on a des classements, par exemple pour les championnats de France où on va décerner le titre de champion de France de second, de troisième, etc.
D'accord, mais pour ce faire là, c'est le club qui va inscrire ses athlètes ou c'est l'athlète qui dit moi je veux faire telle compétition
Alors en fait c'est d'un accord commun, voilà. Ouais. En général nous quand on a des athlètes automatiquement on les inscrit. Alors l'inscription se fait via le club.
Ah voilà, d'accord.
Mais quand on a un athlète qualifié, automatiquement on l'envoie.
Voilà, il peut éventuellement faire des impasses, par exemple, dire je fais pas telle épreuve et je fais celle-là par rapport à ses objectifs.
Exactement, oui, il y a des impasses de possibles, oui, tout à fait. Mmh.
Parlons un petit peu de l'arbitrage. Comment on fait pour être arbitre? C'est quoi les règles d'ailleurs?
Alors déjà, on a 3 arbitres en compétition haltérophile.
Ah d'accord. Voilà.
Donc quand on est sur des compétitions par équipe, chaque club amène son arbitre. Comme ça, on n'a pas de problème de...
D'accord,
voilà,
c'est un arbitre par
club sur
par
des
club,
triangles.
Vous êtes obligé d'en avoir un.
Oui.
Il y a ils sont choisis comment faire? Ils ne sont pas choisis, ils passent des diplômes, j'imagine.
Oui, tout à fait. Mais c'est un petit peu comme les athlètes, c'est-à-dire qu'au départ, il y a des arbitres régionaux. La plus basse catégorie, c'est régional. Après, au fur et à mesure du temps, s'ils ont envie de s'investir, ils passent les diplômes pour passer arbitres nationaux et arbitres internationaux.
Ah, ils prennent des niveaux également.
Oui. C'est comme les athlètes, tout à fait.
Et alors, ils regardent quoi, l'arbitre sur...
Alors, ils regardent parce que nous, il ne suffit pas de soulever la barre.
On peut tricher ?
Alors, on ne peut pas tricher, mais on peut faire des mauvais gestuels. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, quand on fait de l'épaulé jeté, qu'on a la barre sur les épaules, qu'on la propulse au-dessus de la tête. Il faut que les bras soient tendus directement. Si un bras plie et que ça pousse, c'est pas bon. D'accord. Même si on a réussi à soulever la barre.
Et alors on prend des points en moins, on prend des avertissements.
On a tout simplement mauvais.
Ah d'accord, ok. Donc on prend 0 point. Quoi.
On prend 0 point.
Ah oui, d'accord, ok. Et alors ce sont les 3 arbitres qui sont sur 3 angles différents.
C'est ça. On a un en face, un à droite et un à gauche, et la décision se fait à la majorité. C'est-à-dire que s'il y a 2 lampes vertes et une rouge, l'athlète a bon. S'il y a 2 rouges et une verte, il a pas bon.
Ok. Voilà. D'accord. On va parler un petit peu de vos événements, de votre club de Monteux. Qu'est-ce que vous avez comme événement?
Alors là, nous, pour notre part, on a tout organisé déjà. Donc, on a organisé nos fameux championnats top 9 et National 1.
Et oui, puisque vous venez de finir la saison.
Voilà, on vient de finir la saison. Mmh. Là, en individuel, on n'a pas d'organisation spécifique pour la fin de saison, sachant qu'en 2024, on a organisé en 2024, oui, on a organisé les championnats de France Masters, donc c'est les championnats de France ouverts aux plus de 35 ans, sur Monteux, et on avait 350 compétiteurs.
Ah oui.
Voilà, donc ce sont des grosses organisations, des grosses logistiques. Sur 3 jours, voilà, sur Monteux, la mairie nous avait permis d'occuper les tennis de Monteux et d'avoir une très grosse structure pour organiser ces événements.
Ah oui, oui, ça va être assez, assez impressionnant, effectivement. Vous avez des projets sur les années à venir de développement? Qu'est-ce que vous envisagez?
Oh, ben nous déjà maintenir le niveau qu'on a.
Ouais, parce ouais, que voilà. Parce que vous êtes au niveau quand même.
On est bien. Et puis, ben nous c'est la formation. Voilà. Nous, on est axé depuis des années sur la formation. Si on veut perpétuer un petit peu la tradition montilienne de l'haltérophilie, il faut avoir des jeunes.
Alors, comment vous allez chercher vos jeunes?
Alors, on a la chance d'être en partenariat avec des établissements scolaires et des centres de loisirs. Ce qui fait que nous, régulièrement, par exemple, le collège Sylve fait des séances d'haltérophilie. Les collégiens, le 6e en 3e.
Ah oui, c'est une bonne idée. Ouais, très, très bonne idée.
Mais de toute façon, nous, spontanément, les parents, en général, n'amènent pas les jeunes ou les jeunes ne viennent pas spontanément à l'haltérophilie. Et il faut qu'on y aille, qu'on leur montre. Et en général, ça se passe bien.
Il y a combien de licenciés en France à la louche?
Une vingtaine de milliers, 25.
Ah, quand même.
26 000
quand même. D'accord. Ok. D'accord. Et donc là, vous allez chercher en collège, vous essayez. Alors, ils peuvent venir d'un autre sport, vous disiez. Hein, ils peuvent faire les deux.
Donc, ils peuvent faire les deux. Voilà, on accepte tout à fait.
Pas de problème. Ils peuvent découvrir et puis après se lancer dans la compétition. Pour vous contacter, on va faire comment?
Alors, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et surtout, de venir au club, ne pas hésiter à ouvrir la porte, on vous accueillera avec grand plaisir.
Voilà, donc alors, vous nous rappelez les horaires où on peut vous trouver?
Alors, 17h, 20h, tous les jours de la semaine et le dimanche de 10h à midi.
Alors, 17h, 20h, tous les jours de la semaine, le dimanche de 9h
à midi. De 10h à midi, oui.
Pardon, de 10h à midi.
À la halle des sports de Monteux.
Voilà, et alors, comment on dit? On dit qu'on soulève de la fonte, c'est ça?
Alors, on dit, quand on fait une compétition, on dit tirer. Voilà, on tire.
Ah, on tire, ouais. D'accord. Ah ouais, d'accord, ok, un peu comme un escrime d'ailleurs.
Tout à fait.
Ouais, ok. Écoutez, vraiment, Monsieur Gourrier, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. Je suis vraiment ravi qu'on ait pu faire découvrir l'haltérophilie pour ceux qui ne connaissaient pas. Voilà, moi j'ai appris énormément de choses. Je suis vraiment très, très content de vous avoir reçu. Je vous souhaite de poursuivre, évidemment, en individuel, que vous ayez pas mal de... C'est quoi, c'est les médailles qui gagnent? Des titres.
On aime bien ramener des médailles en général, oui, on aime bien.
Oui, c'est ça, ouais, ce sont bien des médailles. Voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour lancer la saison prochaine, hein, avec vos équipes en élite chez les hommes et chez les femmes. Puis écoutez, je vous souhaite, on est mardi là, donc une bonne semaine. Voilà. Et puis un rendez-vous pour tous les auditeurs, ce sera le 7 avril, me semble-t-il.
C'est ça. Tous les deux.
Voilà, hein, le
tous
7
avril. Avec
Jean-Pierre. Donc le 7 avril, on se retrouve évidemment sur RTVFM et on parlera football, puisque je recevrai M. Rank, qui est un des organisateurs du district de football. Voilà, on parlera de tout cela en détail. Voilà, un grand merci à toutes et à tous. Écoutez, très bonne soirée à tout le monde et puis au grand plaisir de vous retrouver dans Bienvenue au Club, évidemment, sur RTVFM. Allez, à bientôt.
C'était Bienvenue au Club avec Laetitia et Alain, le rendez-vous sport de Carpentras et ses environs.